Est-ce que on peut dire que vous êtes freudien, ou considéré comme freudien?
Alors personnellement, tout à fait. Personnellement, tout à fait. Je suis dans une faculté Paris 5, parce que vous avez rappelé que je travaillais du point de vue en lien avec Paris 7 en ce qui concerne certains enseignements de la psychologie, mais pour la psychiatrie, je suis enseignant à Paris 5. Paris 5, c'est l'université René Descartes. Alors ça ne me va pas du tout, parce que enfin, j'y suis très heureux, mais je veux dire, ça ne me va pas du tout, parce que le cartésianisme débouche sur un dualisme entre le corps et la psyché qui ne va pas du tout pour le bébé. Plus le bébé est jeune, plus le corps et la psyché ne font qu'un. Et de ce point de vue-là, je me sens effectivement tout à fait freudien. Freud a toujours dit que le moi psychique, s'enracinait dans le moi corporel, et qu'au début, le moi corporel, le moi psychique ne faisait qu'un. Notre ennemi public numéro un, c'est vraiment le clivage entre le corps et la psyché. Et personnellement, je me sens de ce point de vue-là très freudien. Alors j'en profite pour dire qu'en ce moment, c'est vraiment devenu la mode de dire que la psychanalyse est morte, que la psychanalyse est dépassée, que la psychanalyse n'a plus rien à nous dire. Moi, vous savez, je ne sens pas du tout les choses comme ça. Je crois qu'il y a dans l'épistémologie de la psychanalyse des choses extrêmement modernes, ne serait-ce que le modèle polyfactoriel, qui est les séries complémentaires de Freud, ont été les premières à faire sortir le raisonnement médical de la médecine linéaire de Claude Bernard, qui a beaucoup d'intérêt aussi dans la médecine somatique, mais qui en médecine physique, en médecine psychique, ne va pas du tout. Le modèle polyfactoriel, la circularité du temps, le raisonnement inférentiel, il y a là des trouvailles épistémologiques qui sont extrêmement modernes. Et je pense personnellement que les médecins du corps, les biologistes, quand ils se montrent très agressifs envers la psychanalyse, d'abord, souvent, ils ne l'ont pas suffisamment lu, mais d'autre part, ils sont très jaloux des avancées, de l'avance que le modèle psychanalytique avait sur le modèle biologique actuel. Vraiment. Alors, pour pondérer mon propos, je dirais que le dialogue actuellement entre les médecins du corps, on va dire, hein, et les soignants de la psyché, est très fécond quand les biologistes sont de haut niveau. Moi, je pense vraiment que nos ennemis, les ennemis de la psychanalyse, je vais peut-être avoir l'air un petit peu méchant en disant ça, mais c'est ce que je pense. Les vrais ennemis de la psychanalyse ne sont pas du tout les biologistes de haut niveau, qui, eux, au contraire, sont très intéressés par certaines pistes de recherche qui ont été ouvertes par la psychanalyse. Le rêve, l'oubli, le refoulement, etc. Mais nos adversaires sont, je dirais, les biologistes de moindre niveau, et puis surtout ce que j'appelle, moi, les psychiatres biologisants, qui connaissent mal la biologie et qui en font une espèce de caricature en pensant que la psychanalyse est dépassée, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si c'est dans le... Si, je pense que ça va bien dans le fil de votre question. Il y a en ce moment une discipline qui est ou plutôt, peut-être pas une discipline, mais un espace de réflexion qui est en train de naître et de se développer en France, mais qui a déjà pris son démarrage ailleurs. C'est l'espace qu'on pourrait appeler l'espace de la neuropsychanalyse.
J'allais vous interroger là-dessus, puisque
Voilà.
vous avez un ouvrage qui vient de
Enfin, c'est un ouvrage
paraître,
collectif, hein, qui a
avec
été
Vidlocher,
Lisa Houss, Nicolas
voilà.
Georgieff et puis d'autres collaborations. Voilà. Alors c'est vrai que le mot de neuropsychanalyse sonne assez bien, je crois, aux oreilles anglo-saxonnes, et en France, il pose un petit peu un problème parce qu'il y a quelque chose qui paraît un peu mécanique, hein. On ne va pas faire la neurologie de l'inconscient, on ne va pas faire la psychanalyse des neurobiologistes. On a mis un point d'interrogation, hein, dans le titre, parce que c'est vrai qu'en français, le titre, ce terme ne convient peut-être pas tout à fait bien. Mais ceci dit, je pense que ce concept de neuropsychanalyse est dans le droit fil de l'héritage freudien. L'idée, c'est, et il y a probablement en ce moment un moment de dialogue particulièrement fécond avec les biologistes de haut niveau et curieux, et les psychiatres ou psychanalystes de haut niveau et curieux épistémologiquement. Je le pense parce que on a toujours l'impression qu'on vit à une période un peu spéciale. En fait, je crois que de ce point de vue-là, notre époque est comme il y a une occasion à saisir. Parce que les psychanalystes et les biologistes du cerveau on fait un mouvement un peu parallèle sans s'en rendre compte. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer ça un petit peu ? Les psychanalystes, pendant la première partie du XXe siècle, enfin avec Freud, ont développé considérablement, c'était le premier temps du travail, la théorie de la pulsion. Et Freud a centré son regard sur le sujet, sur son fonctionnement psychique, sur son développement, le stade oral, le stade anal, le stade phallique, le stade oedipien, la période de latence, l'adolescence. Il a donné ses lettres de noblesse à la métapsychologie, c'est-à-dire à l'organisation intrapsychique du sujet. Je pense que Freud savait très bien que l'environnement existe, mais il ne pouvait pas prendre tout d'emblée d'un seul regard, donc il s'est centré sur le sujet. Et puis après les années 50, avec Mélanie Klein et toute l'école post-kleinienne, le regard s'est un petit peu décalé vers le rôle de l'objet dans tout ça, le partenaire relationnel. Et il s'est développé à ce moment-là, en complément, parce que ça n'annule pas les travaux précédents, mais en complément de la théorie des pulsions, il s'est développé la théorie des relations d'objets, qui est typique de l'école anglaise. Et donc c'est un regard psychanalytique qui part du sujet et puis qui se décale progressivement vers le rôle de l'objet et vers l'étude du lien qui unit le sujet et l'objet, l'objet au sujet. Bon. Et parallèlement à ça, et peut-être un peu plus tard d'ailleurs, parce que Freud était vraiment novateur, Freud et les psychanalystes ont été vraiment novateurs au XXe siècle, un peu plus tard, c'est dans la deuxième partie du XXe siècle, on a les biologistes du cerveau qui ont fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire que d'abord, les neurosciences, c'était l'étude du cerveau. Du cerveau, on pourrait dire, presque isolé de l'organisme. Hein, c'est-à-dire repérer les zones qui commandent la motricité, qui commandent la sensibilité, qui commandent ceci, qui commandent cela. Et on étudiait le cerveau un petit peu comme dans nos études de secondaire, on étudiait, nous, le muscle gastrocnémien de la grenouille, isolé de la grenouille. Hein, ce qui a donné des résultats aussi. Mais le muscle de la cuisse de grenouille sans la grenouille, c'est presque aussi artificiel que le cerveau isolé du sujet et de la relation. Et peu à peu, après avoir acquis un certain nombre de résultats, les biologistes aussi se sont décalés du cerveau du sujet vers la relation. Et ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est non pas le cerveau isolé, mais c'est le cerveau en relation avec autrui. Et on voit apparaître, c'est ce que Jean-Didier Vincent a appelé avec un terme tout à fait adéquat, une biologie de la relation qui apparaît, dont il y a certains exemples tout à fait frappants. La théorie de l'attachement, il y a une certaine biologie de l'attachement à travers l'hormone de l'ocytonine, par exemple, qui apparaît, qui est une biologie de la relation. Ce n'est pas le cerveau en tant que tel, c'est la biologie du lien, l'empathie, les travaux sur l'imitation, les travaux sur les systèmes, ce qu'on appelle neurones miroirs. Tout ça, c'est une biologie de la relation. Alors aujourd'hui, on est dans une époque formidable, parce qu'on a les psychanalystes qui se sont également décalés vers l'objet et le lien, les biologistes qui se sont également décalés vers l'objet et le lien, et là, tout est prêt pour qu'on parle mieux qu'autrefois, et dans ce contexte-là, c'est pas du tout étonnant que le concept d'intersubjectivité soit au premier plan de toutes les réflexions. Alors, je crois que le concept d'intersubjectivité n'est pas un concept psychanalytique, mais je pense que Freud aurait été extrêmement intéressé par ce nouveau champ de réflexion.